clinique, celle de nos rencontres singulières avec ceux que j'ai encore la faiblesse d'appeler nos patients. Risque, celui d'être là devant vous, au prix peut-être du dévoilement. Trauma, celui d'être commandé une famille de victimes. Il s'appelait José Antonio et aimait son café au lait de la Cinco et les petits gâteaux. Eran las cinco de la tarde, comme celle du llanto de Federico García Lorca à son ami Ignacio Sánchez Mejías, mort aux arènes. À José, donc, mon petit cousin, l'archi, et aux Ramblas. Et comme parfois les mots me manquent, j'ai demandé à Paul Van Aver, qui est l'ami d'un de mes meilleurs amis belges, de m'accompagner un peu dans cette balade. Polo, vous savez, hein, ce drôle de gars qu'on appelle Stromae. Toulouse n'est pas ma ville, mais elle fut celle de Francisco, Paco, mon père, fuyant d'un autre Francisco, autoproclamé caudillo. Toulouse est la Garonne transfrontalière. Toulouse est le quartier des Espagnols. Toulouse est AZF, trauma. Toulouse et Gérard Marchand, les oubliés. AZF et Gérard Marchand, le risque. Le risque est beau, nous dit Platon. L'instant de la décision est une folie, rajoute Kierkegaard. Risque. Risquer sa vie est l'une des plus belles expressions de notre langue, nous dit la regrettée Anne Dufour-Mantel, qu'il a perdu sa vie pour l'avoir risquée. Est-ce nécessairement affronter la mort, poursuivait-elle, ou bien y a-t-il logé dans la vie même un dispositif secret, une musique à elle seule capable de déplacer l'existence sur cette ligne de front qu'on appelle désir, et l'on verra plus tard son importance dans les sujets qui nous occupent. Et si le risque traçait un territoire avant même de réaliser un acte, s'il supposait une manière d'être au monde, risquer sa vie, c'est d'abord peut-être ne pas mourir. Mourir de notre vivant, renoncer. Et si ne pas mourir de notre vivant était le premier de tous les risques. L'instant de la décision, celui où le risque est pris, inaugure un temps autre, comme le traumatisme, mais un traumatisme positif, une manière d'être bousculé. Prendre le risque de ne pas mourir pose la question de savoir ce qui fait de nous des vivants, mais plus encore, comme Eurydice, d'appeler. Orphée se retourne. Essence du lien humain. Amour. L'amour est cet événement qui nous rend capables de nous transporter dans l'autre. Ne rigolez pas. De nous déserter pour choisir l'adversaire contre soi. Il suppose donc que l'on s'y risque. Admettre sa défaite. Son attente insensée, son désespoir devant le refus de l'autre. On verra pourquoi certains de nos patients ne le supporteront pas. Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas. Vous vous souvenez, ça faisait Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas. C'était Jeannette, la bande-son du film Cría Cuervos de Saura. Dépendre d'un autre. Mais s'inventer seulement des airs de micro-dépendance avec quelques bulles autour, aussi légères que des ailes de libellule. Servitude. Celle des normes de sécurité, des caméras de surveillance et du principe de précaution. Celle du mieux vivre, de l'ergonomie et du tout sécurite. Prendre le risque de désobéir pour s'obéir à soi. Si, podemos. Bon, après, dans la concrétude de la gouvernance, on a vu ce que ça avait donné. Je vous laisse juger. Douceur de l'insolence, désinvolture de l'humour, esprit face à l'inéluctable, pas de côté où que l'on soit, face à l'exigence de résignation, un ne pas. Passion. Substance même du risque, nous redisait Anne Dufour-Mantel. Passio, Action de supporter, s'abandonner, faire face à l'abandon au risque de la trahison. Passion christique, humilité et accès au sacré. Risque zéro. En 2017, il va de soi. Horizon obligé de nos décisions collectives et individuelles. Toujours Anne Dufour-Mantel. Auto-évaluation, testabilité des choses et des êtres. Ça, vous connaissez tous par cœur. Risque mortifère qui déresponsabilise le sujet de son acte. Vous avez tous au moins un voisin, un collègue qui a pris l'autoroute un jour où c'était enneigé et où il le savait et qui, même en étant informé, veut faire un procès à la société autoroutière parce qu'il a passé la nuit dans sa voiture sans l'eau, la couverture et le chocolat qu'il n'avait pas pris. D'un côté, l'être de pulsion qui risque tout et surtout n'importe quoi et qu'il faut protéger contre lui-même. Et de l'autre côté, l'hyper-raisonnable, inquiétant à force de vouloir l'être raisonnable. Barbarie des guerres propres, de la frappe chirurgicale et des dommages collatéraux, parmi les civils bien sûr, sans oublier les tirs amis. Risque zéro, celui prôné par un ministre qui demande au psychiatre de collaborer, ou celui de ce politique qui veut un internement préventif déradicalisé, comme pour les fous. Liberté. Homme, espèce biologiquement déterminée pour être libre, exception à l'universel qui l'entoure, nous dit Alain Prochant. Prendre le risque d'être libre, au risque d'atteindre les loyautés les plus anciennes, au risque de devoir se confronter à voir cette liberté se trouver menacée. Souvenez-vous de ce que nous avons vécu de ce côté-ci des Pyrénées il y a quelques mois. Parole.
Silence.
Parler et se taire. Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole, nous souffle Montaigne dans les menteurs. Si la régie m'entend, je veux bien la musique. Oel, bel, icayal, susurre la mère hispanique à son garçonnet inquiet, qu'elle met ainsi définitivement au secret. Entendre, voir et se taire. Toujours pas de musique. Identification des partenaires de soins, sensibilisés autour d'un maillage et élaboration de procédures de formalisation et de signification des actions. Au fur et à mesure de l'usage, il est recherché une augmentation du champ des possibles et une banalisation des démarches. Vous aurez tous reconnu non pas un délicieux passage de la série 100% humain, mais un fragment de cette nouvelle langue très chère à Thierry Trémine qui doit ne pas être très loin et qui est l'extrait d'un mail très récent que j'ai reçu. Écoutons Heidegger. La parole s'adresse à nous, visant notre être. Elle nous appelle, nous fait entrer dans l'être et nous y tient. Tenir signifie proprement garder. Veillez sûr. Et nous savons tous l'importance de cette veille dans la vie, je dirais même la survie des humains dont nous évoquons la problématique aujourd'hui. Vigilance, Guillaume Veva viendra nous raconter. Si la prise de parole est un exercice de pouvoir, arrêtons de parler pour ne rien dire. Si l'on considère le risque comme un événement, il définit un avant et un après, une crise dans le temps qui rend impossible le retour au comme avant. La crise ne peut être pensée sans le temps. Ce qui la caractérise est une rupture, une désinsertion de ce qui était, qui tenait jusqu'ici. En résulte, l'irruption d'un réel auquel le sujet ne peut souvent pas faire face. Le moment de crise suppose un rapport entre ce qui s'est passé, ce qui était et ce qui résultera. Moment en suspens, d'une attente parfois insupportable, instant suspendu entre passé et futur, instant d'incertitude auquel on ne peut se soustraire, temps zéro, celui de Calvin, seconde infinie où tout est encore possible. Alors pour la petite histoire, la petite montre n'est pas seulement une Hermès, elle s'appelle les grandes heures. Et à la convenance de celui qui la porte, on peut faire dérouler beaucoup plus lentement certains espaces-temps. Et celle-ci s'appelle 5 à 7, je vous laisse rêver. un non-espace-temps, celui d'Hannah Arendt, au cœur même du temps qui permet d'inventer, de s'inventer au-delà de la crise, d'inventer son avenir plutôt que d'être déterminé par son passé. Inventer, prise de risque, eh bien oui, le revoilà. Quasi poétique, nous dit Alain Prochains, inventer quitte à ce que l'expérience au sens réel vienne appuyer ou réfuter certains éléments de l'invention. Allez, on va se re-risquer. Normalement, ça chante.
Quand tu crois
Est-ce que
enfin
ça
que
peut
tu t'en sors,
chanter?
quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes et ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La 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 la.
Croire que l'imprévisible puisse apparaître, advenir, se manifester, transformer notre vie, nous permettre d'aller ailleurs. La crise implique le choix, mais aussi le désir. Ne plus accéder au désir, c'est la mort. Perte du sens, tâche mécanique, vie sans désir que parfois on appelle dépression. Tourbillon de vacuité de celui à qui l'on ne donne plus rien à faire, jeté aux oubliettes du bore-out. Dévitalisation progressive provoquée par l'absurdité quotidienne de la tâche à accomplir, sous la forme du contemporain burn-out, pratique inédite d'écartèlement psychique. Vivre est une invention arrachée à la terreur, nous ressouffle Anne Dufour-Mantel. Une terreur, l'angoisse. Que certains apaisent dans l'alcool, la seringue, les bras toujours différents, ou l'affairement maladif, bûcher consommatoire du burn-out, qui transforme l'excès de zèle en petit tas de cendres fumantes. Angoisse insupportable à haute dose, dont certains semblent pourtant être immunisés de naissance. Nous reverrons cela lorsque nous aborderons la question d'un corps second, psychique celui-là. Miser sur la crise, c'est accepter qu'elle produise ses propres sorties, au risque de l'imprédictibilité de l'avenir. Avenir contemporain, surface de projection fractale, ensemble de micro-discontinuités, juxtaposition rapide de nos images en montage accéléré, extimité revendiquée de vies qui seraient multiples et transparentes. Sortir de la crise ne sera donc pas seulement une histoire individuelle. Elle devra être collective. C'est avec l'autre que l'on pourra sortir de l'impasse. Un autre rencontré, un autre qui compte et pour qui l'on compte, un autre inquiet, un autre qui se soucie, un autre qui nous regarde. L'objet regard, enfin un concept lacanien que j'ai réussi à comprendre avec mon infinie gratitude et amitié à Laurent Dupont, le génial psycho de notre unité de crise et de négociation de soins à Mantes, unité à laquelle je dédie ce petit texte parce qu'ils m'ont aidé constamment dans notre pratique quotidienne à réfléchir à ce dont il s'agit. Laurent, je le re-remercie parce que je vais lui emprunter sa référence au tableau Les Ménines de Velázquez. Je l'ai d'ailleurs revu dimanche dernier au Prado. Velázquez, un peintre au devant de sa scène et un peintre en arrière de sa scène. Le studium, c'est grosso modo le sujet de la photo. Et le punctum, ce petit détail qui subvertit le cadre général et offre la possibilité de percevoir que quelque chose peut-être a changé. Merci Roland Barthes. Voir, c'est comprendre, juger, transformer, imaginer, oublier ou s'oublier, être ou disparaître, nous rappelle Paul Éluard dans Donner à voir. Civilisation de l'image, société du spectacle de Guy Debord. Être regardé, regard qui enchante ou fait souffrir, deviner qui nous sommes à partir de ce que les autres déduisent de nous et se contenter d'un savoir partiel sur notre identité. Risquer d'être inexistant parce qu'on a perdu le regard des autres. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. répond René Char à Blaise Cendrars dans le très célèbre Rougeur des Matinaux. Regard, identité. Nous allons nous arrêter un instant sur cette question car indiscutablement dans les situations qui nous occupent, l'identité, peut-être même les identités, sont l'un des grands enjeux de la crise. L'identité, nous dit Jean-Claude Kaufmann, c'est l'histoire de soi que chacun se raconte. La narration de soi, surenchérit Ricoeur, est non pas une pure invention, mais une mise en récit de la réalité, un agencement d'événements permettant de les rendre lisibles et de donner sens à l'action. Chacun se raconte des histoires et guette les histoires d'autrui pour nourrir sa propre imagination. Le roman, le cinéma, la télévision, la chanson sont censés nous proposer de belles histoires devenues une nécessité pour notre société. Il suffit de s'arrêter 2 minutes sur le telling story des vacances de tout un chacun et leur mise en image, dont l'éventuelle déroute peut aboutir à de réels nouveaux tableaux cliniques pour percevoir en direct de tels enjeux. Le récit va devenir l'instrument par lequel l'individu cherche à forcer son destin, au point que parfois il devienne ardu de percevoir ce qui domine entre le récit et l'expérience vécue. L'identité apparaît peu à peu comme une condition de l'action, chez un individu enjoint, au nom de la liberté d'un monde dit ouvert, de définir le sens de son existence et son identité même. Émotions, affects, sont projetés au premier plan de la construction identitaire. Tout cela suppose tout de même une certaine consolidation de la reconnaissance et de l'estime de soi. Actuellement, le destin semble avoir été métamorphosé en futur, dont chacun est censé pouvoir être responsable. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar, nous disait Antonio Machado. Lui, il a fini son chemin dans un cimetière, celui des exilés parqués du camp de Collioure, une stèle face à la mer. La question de la reconnaissance, mais aussi de l'échec, l'impression bien sûr subjective de n'être pas grand-chose, de n'avoir pas réussi, peut provoquer une détresse existentielle doublée d'une culpabilisation insoutenable. Ah ben non, voilà. On chante.
Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
Dans un contexte qui réclame et revendique constamment une autonomie personnelle, cette autonomie peut se transformer en insoutenable fardeau et provoquer un véritable effondrement. Effondrement, sentiment de laisser tomber radical qui conduira bon nombre de patients dans nos salles d'urgence et dans nos unités de crise. Je ne peux m'empêcher de partager avec vous le très beau poème de Sully Prudhomme intitulé « Le vase brisé » et particulièrement sa dernière strophe. Toujours intact aux yeux du monde, il sent croître et pleurer tout bas. Sa blessure finie et profonde, il est brisé, n'y touchez pas. Il n'est pas d'action possible sans croyance aux identités que l'on s'invente, insiste Jean-Claude Kaufmann. C'est cette croyance qui produit l'énergie pour tenir, mais seulement si elle va dans le sens de l'estime de soi. Et du coup, on voit bien comment constituer le réservoir d'énergie ne sera pas donné de la même manière à tout le monde. Cela me conduit à évoquer comme exemple le travail de Serenica Telenico et Thierry Bobet, qui d'ailleurs sera présent parmi nous. La mer comme espace liminal, méditerranée, lieu de passage vers un changement d'état et une transformation d'état, réécriture de l'histoire identitaire de certains migrants. On voit bien aussi comment la manière actuelle de constituer des identités peut nous conduire à nous protéger dans des bulles de réponses déjà formées, des repères identitaires qui certes donnent un cadre mais aussi qui enferment. Je reviens d'Espagne, je ne vous raconte rien de la Catalogne versus le reste de l'Espagne, réciproquement. Après ce long détour par les questions identitaires, approchons-nous de quelques réalités grossies à la loupe par l'actualité de 2017. Éventail d'expressions des cliniques qui nous interrogent, pour finir par l'évocation plus particulière de ce qui fait trauma. Traitement illustré ces temps-ci par une succession d'événements dont on ne peut s'empêcher de penser qu'ils visent à provoquer la destruction insidieuse au-delà des actes, de ce qui est encore plus ou moins intact, encore vivant. En premier lieu, un temps d'arrêt sur la notion et la définition de la bonne santé mentale prônée par l'OMS. Souvenons-nous, une personne en bonne santé mentale est quelqu'un qui se sent suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle il ne peut rien changer. La bonne santé mentale doit-elle nous permettre de satisfaire aux normes de nos sociétés, nous exposant à l'indifférenciation dans une économie qui ne souffre aucun état d'âme? Prévoir, classer, gérer, normaliser les compétences individuelles avec le contexte social dans une perspective d'adaptation. Avec le sourire et en pleine conscience, nous disait Mathieu Belkacem, un collègue canadien, à la faveur de la semaine de la santé mentale québécoise. Nul doute, les théories d'amélioration du moi et de recherche du bonheur participent sans réserve au grand marché du mieux-être. Un marché où il suffit d'y croire pour que tout fonctionne. Chic, ça fera moins de demandes pour la psychiatrie. Enfin, on l'espère. Pas de négatif, pas de confusion, pas de peur, pas d'avenir, juste un présent éternel. Concurrence, performance, productivité, responsabilité, adaptabilité, condition dite gagnante du bien-être individuel et collectif. Rapport de forces instaurées, banalisées, au travail, à l'école, dans les loisirs. Chère petite tête blonde aux agendas bien remplis sous couvert d'épanouissement personnel. Servitude volontaire, la revoilà. Amalgame d'individus en compétition les uns contre les autres, dans cette quête du bien-être, sans la moindre considération pour les êtres, précisément. Despacito nous a pourtant fredonné et enjoint tout l'été. Une petite musique que nous avons d'ailleurs entendue hier soir pour ceux qui participaient à la très joyeuse soirée syndicale. Despacito, forme mystérieuse et contradictoire d'un reggaeton lento, puissance et douceur à la fois. Merci encore, Anne Dufour-Mandel. Ce ne sont que les chiffres de 2016, mais selon l'Observatoire national du suicide, 3,9% de la population française aurait déjà eu des idées suicidaires. 20,1% des étudiants en médecine au point d'en faire l'objet d'un PHRC de l'année 2017. Suicide. Deuxième cause de mortalité chez les jeunes, nous rebâche l'OMS. Au fait, la pédopsychiatrie, ça sert à quelque chose? 13 Reasons Why. À voir d'urgence sur Netflix. Quand on rechute dans la barbarie, telle que les guerres entre les peuples européens, on y croyait aussi peu qu'aux sorcières et aux fantômes. Nos pères étaient pétris d'une confiance persistante dans le pouvoir de la tolérance et de l'esprit de conciliation qu'ils voyaient comme une obligation à laquelle tout le monde serait tenu de souscrire. Ils pensaient sincèrement que les lignes de divergence entre nations et confessions s'estomperaient progressivement pour se fondre dans une dimension humaine commune et que les biens suprêmes que sont la paix et la sécurité deviendraient le lot de l'humanité entière. Stefan Zweig, Le Monde d'hier, 1941. Mais Lydia, Orestiada, Edirne, Armonli, Lesovo, El Cobo, Lesbos, Alexandroupolis, Istanbul, Lampedusa, Mineo, Catane, Tovarnik, Orgos, Bregona, Medica, Pabrave, Riga, Biata, Polska, Skurkovo, Narva, Helsinki, Kuopio, Sala, Ivalo et tant d'autres postes frontières. Nous avons entrepris ce voyage sans savoir au juste ce que nous trouverions en chemin. Nous rentrons à la maison avec la conviction que nous devons le raconter. Carlos Bordono, Guillermo Abril, ce sont des journalistes et reporters photographes du País, quotidien du pays d'à côté. 25 000 clichés, la grieta, la fissure, trauma. Selon le Conseil de l'Europe, un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en Europe. On écoute ?
Si monsieur louche sur toi, il faudra se taire pendant et après que monsieur te touchera. Chut, chut, il faudra se taire. C'est dur, ouais, mais il faudra s'y faire. Dodo, l'enfant, dodo, bébé, dormira bien vite. Dodo.
En France, en 2016, 8184 cas de mineurs violés ont été signalés et transmis à la justice. 88% des victimes sont des filles. 44% des viols des 0 à 9 ans sont intrafamiliaux. 10 avril 2017, Laurence Rossignol reçoit le rapport flamand Calmette sur les viols sur les mineurs. Il requiert une prolongation à 30 ans après la majorité civile du délai de prescription. Amnésie traumatique. Paris, Istanbul, Bruxelles, Magnanville, Berlin, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Londres, Manchester, Barcelona. Et les enfants dans tout ça, trauma. Merci à David Alexander, Hélène Herman et Thierry Bobet de venir nous instruire. Irma, pas si douce, mais où sont passées les îles ? Et où sont passées les caméras ? Trauma. Pathologie borderline, trauma ? Telle est la question. Francky Omans nous aidera à y répondre. Je ne pouvais évoquer la question du trauma sans m'arrêter un instant sur la figure de celle qui nous a quittés le 30 juin dernier. Non pour évoquer un parcours politique qui fera empreinte et trace, sinon j'aurais choisi une photo d'elle en égérie Chanel portant chignon, mais pour en faire un symbole d'espoir. Faut l'espoir de celle qui surmonta l'insurmontable. Image d'une jeune fille inconsolable de la perte d'une mère arrachée. Aux yeux, pour les deux fois où il m'a été donné de la rencontrer, d'une douleur et d'une profondeur infinie. Témoins intemporels d'une souffrance restée là, intacte, contre laquelle il fallait sans doute combattre, minute à minute. Douleur et souffrance dont on peut imaginer qu'elles aient nourri tous ces combats. Toutes ces luttes, même et surtout les plus intimes, au risque de l'inconnu, au risque de l'avenir, au risque de croire, au risque de l'esprit, au risque de la parole, au risque de la beauté, au risque de l'éblouissement, mais aussi et surtout au risque de traverser l'enfer. Merci Simone, merci Madame. Le traumatisme procède d'une rencontre avec le réel, mais un réel dévoilé par l'effraction traumatique. Si la crise est caractérisée par l'angoisse, le traumatisme plonge dans l'effroi. Si elle induit, comme on l'a vu tout à l'heure, une tension temporelle, le traumatisme nous projette hors temps, hors du temps, hors du langage, hors du lien social, nous plongeant dans la sidération, la pétrification, le freezing. Le traumatisme fait disparaître le temps ou l'éternise. Amnésie traumatique, travail de mémoire. Walter Benjamin évoque la possibilité que le récit soudain s'interrompe. L'homme reste sans mots, impuissant à dire. C'est ainsi que Benjamin décrit l'entrée dans le XXe siècle. Le bruit et la fureur de la Première Guerre mondiale ont recouvert la parole, étouffée jusqu'à l'étreindre. Pour la première fois, au récit des épopées, gestes et légendes va répondre le silence, le mutisme des hommes revenus de guerre en silence, incapables de raconter ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient fait, ressenti dans leur corps. Michel Pierre, samedi matin, nous en dira un peu plus. Walter Benjamin élèvera l'impossibilité de raconter en symptômes des temps modernes. Là, le silence des survivants portait le silence retentissant d'une première guerre, perçue comme inhumaine, industrielle et de masse. Les noms mêmes avaient été engloutis dans la boue. Le soldat inconnu viendra témoigner pour tous ces morts anonymes. Avec la Grande Guerre, poursuivait Benjamin, un processus devenait manifeste, qui depuis ne devait plus s'arrêter. De fait, le XXe siècle sera très vite traversé en son cœur par un autre silence, plus absolu, volontairement sans témoin ni trace, laissant le monde interdit. L'épuration politique, socio-économique, morphologique, religieuse et ethnique, la Shoah, a donné raison à Benjamin au-delà de tout. Mais mort en 1940, il n'aura pas su à quel point il avait raison. Le récit disjoint de la vie, mais quel récit quand la vie tourne court ? À ce propos, je ne saurais que trop vous conseiller le remarquable ouvrage de Françoise Davoine et Jean-Max Godillère, « Histoire et trauma, la folie des guerres ». La narration désintégrée par l'indicible, « Il y a des choses qu'on ne peut pas dire », c'est l'objet de la proposition 6.522 du Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Écoutons-le. « Il y a assurément de l'inexprimable, celui-ci se montre. » Dire et voir, alors que ce qui se montre commence là où s'arrête l'inexprimable. Et du coup, sur toutes ces questions, je me saurais aussi vous conseiller la lecture du bouquin sur la série « Les experts » qu'a rédigé Gérard Weichmann. Il semble qu'il y ait à chaque période de l'histoire un événement qui confronte à l'impossible, un réel qui met la représentation en crise, un événement impossible à penser et à dire, à se représenter, à représenter, mais impossible à oublier. À l'orée du XXIe siècle, le souffle d'une explosion a fait vibrer le siècle. Le 11 septembre 2001 est l'un de ces événements qui scande un avant et un après dans l'ordre des représentations. Il a sans doute été conçu comme tel. Il y avait dans cet attentat, nous dit précisément Weichmann, la volonté d'un attentat contre l'image humaine, destiné à être vu, un crime hypervisible. On sait depuis lors l'usage de l'image dont font montre les terroristes, auteurs des différents attentats qui nous ont ébranlés ces trois dernières années. Les anthropologues nous le confirment. La révolution idéologique du traumatisme est d'avoir fait passer la personne frappée par le malheur d'un statut de suspect au statut de victime légitimée. Réparation, témoignage, preuve, autant de modalités pratiques d'inscription du traumatisme dans le champ de l'action, si important, nous l'avons vu tout à l'heure, à la restauration identitaire. Les situations les plus dramatiques montre comment la perte d'adhésion aux images habituelles, y compris celles qui s'inscrivent dans l'ordinaire quotidien, détruit le sentiment même de l'être là. Chagrin, désespoir, incompréhension, révolte, horizon fermé, perte de ressort, refus de consolation sont au premier plan. L'univers de référence s'effondre, vidé de l'intérieur, transformant le monde en décor. Cette mise en perspective du statut de victime suppose une chose, qu'elle soit lue dans une société, dans un pays où l'on n'abandonne pas ses concitoyens, donc fondamentalement dans une société démocratique qui puisse supporter une politique du aller vers. Un simple constat, pas de secrétariat d'État aux victimes dans le nouveau gouvernement français. Sentiment d'urgence chronique, inscription nésique et mémoire traumatique. Mémoire individuelle et collective, identité individuelle et collective, petite histoire de soi, histoire avec un grand H. Travaux de Francis Eustache et Denis Péchanski pour l'Observatoire B2V des mémoires à la faveur du programme 13 novembre mis en place après les attentats parisiens, visant à suivre pendant une dizaine d'années un ensemble de 1000 personnes subdivisées en 4 groupes, les gens touchés par les attentats, les habitants du voisinage, les Parisiens et les habitants d'autres villes de province. Suivi de la construction de la mémoire événementielle, tant individuelle que collective, et de ses modifications, s'il y en a, au fil du temps. Interrogation sur les possibles modifications d'un souvenir traumatique. Vous avez tous vu ou entendu évoquer la pilule qui atténue les traumas des victimes d'attentats, à la faveur d'une médiatisation tapageuse des reporters d'envoyés spécial, contemporaine de l'Élyséen discours sur action préventive du terrorisme. En réalité, l'information, bien qu'elle ne soit pas reprise sous cette forme, parce que peut-être moins sexy, est fondée sur les travaux d'Alain Brunet, chercheur de la canadienne université McGill, qui s'est appuyé sur le fait prouvé qu'un souvenir revécu peut, sous certaines conditions, redevenir labile et est donc susceptible de changer. Vous vous souvenez que l'un des effrois de la mémoire traumatique est sa fixité hors temps, nous l'avons évoqué tout à l'heure, d'où l'intérêt de la bousculer. Michaël Robin évoquera les techniques de MDR qui participent à ce faire. Brunet, quant à lui, a mis en place un programme qui associe sur 20 séances consécutives l'administration d'une dose de propranolol, la fameuse pilule, afin d'atténuer les conséquences physiologiques de l'hyperadrénergie associée à la décharge émotionnelle contemporaine de l'évocation du souvenir traumatique. Décrit de manière contractée, il s'agit de réactiver des images habituellement extrêmement émotionnelles, la plupart du temps ce sont toujours les mêmes bribes, et d'en déplacer la perception et le vécu, y compris corporel, durant la séance, pour progressivement l'intégrer au rang de vrais souvenirs, donc le faire accéder à l'évolutivité. Revenons sur cette question de l'évolutivité. En dehors d'une incontestable amélioration possible du confort de vie des impliqués et apparentés, préoccupation première pour nous qui sommes des cliniciens, il s'agit, me semble-t-il, de construire ce que l'on pourrait appeler, nouvel oxymore, la mémoire du futur. Cette perspective nous conduit à deux autres vignettes. L'une portant sur le possible effet transgénérationnel du trauma, donc la question de la transmission et de ses modalités. L'autre, sur les liens repérables entre plasticité neuronale et inconscient. Vous aurez reconnu là mention aux travaux d'Alain Prochiantz, d'un côté, dont je rappelle qu'il est en charge de la chaire des processus morphogénétiques du Collège de France, et de l'autre côté, Pierre Magistretti, directeur du BrainMade et du Centre de neurosciences psychiatriques de l'Université de Lausanne. Alors en fait, on va faire une petite infidélité à Alain Prochiantz parce qu'on va s'intéresser aux travaux de l'une de ses collègues, qui est une collègue qui travaille à Zurich, à l'école polytechnique, qui s'appelle Isabelle Mansoui, qui est neurogénéticienne. Ses études examinent les liens, les effets de l'environnement, s'ils existent, sur d'une part la biologie du cerveau et ses expressions comportementales, et d'autre part la biologie des cellules germinales mâles. Alors, vous ne vous marrez pas, il n'y a pas de sexisme, juste il travaille sur des générations de familles de souris, et chez la souris, il est plus simple de repérer les cellules germinales mâles, et donc de les étudier. Les travaux vont chercher à savoir si l'influence de certains facteurs environnementaux favorise la transmission de certains caractères de manière prioritaire et si oui, comment et sur combien de générations. Or, le travail sur 3 générations de souris montrerait qu'il existe bien une modification du bagage épigénétique, secondaire à des stresseurs environnementaux, et que ces modifications se transmettraient à l'identique, à la génération suivante, voire encore à celle d'après, en dehors de toute exposition spécifique de ces générations. Si ce marquage recherché est principalement négatif, de récents travaux de la même équipe ont mis à jour, en les recherchant de façon spécifique, l'expression de comportements dits avantageux, là aussi de transmission intergénérationnelle, comme la flexibilité comportementale ou l'hyperadaptabilité, témoignage du coup d'une possibilité d'évolution rapide qui n'est pas que dénuée d'intérêt, et nous aurons le plaisir d'entendre l'exposé d'Eva Jablanka sur toutes ces thématiques. 2000. Eric Kandel reçoit le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur la neuroplasticité. Les résultats sont récents, mais l'hypothèse date. Santiago Ramón y Cajal, encore un hispanique, l'avait formulé un siècle auparavant. Freud en avait pointé le rôle dans les mécanismes d'apprentissage. Et Donald Hebb y avait fait mention à plusieurs reprises dans les années 40. L'idée que l'expérience laisse une trace apparaît à la croisée des chemins de plusieurs disciplines. Trace mnésique, laissée par la perception et ses différents niveaux d'inscription. Le présupposé est bien que les traces s'inscrivent, s'associent, disparaissent, se modifient tout au long de la vie par des mécanismes de plasticité neuronale. Pierre Magistretti nous explique qu'il s'agirait là du mécanisme par lequel chaque sujet exprime réellement sa singularité, faisant de son cerveau un cerveau unique. La plasticité participerait à l'émergence de l'individualité du sujet. Chacune de nos expériences serait ainsi unique et aurait un impact unique, atteignant ainsi l'exclusivité d'un déterminisme génétique qui d'emblée déterminerait la destinée du sujet. Par ailleurs, poursuit Magistretti, la constitution de cette réalité interne inconsciente, fondée sur les mécanismes de plasticité, ne serait pas exclusivement un phénomène d'ordre psychique, mais également un phénomène de corps. Les traces laissées par l'expérience seraient associées à des états somatiques, eux-mêmes associés à la perception, mettant ainsi en relation une réalité interne inconsciente avec des états somatiques associés aux éléments qui la constituent. Ce que rendrait possible le concept de plasticité, ce serait d'aborder de manière critique la modulation de l'expression du génotype par des facteurs du milieu ou de l'environnement, au-delà de l'idée d'interaction. L'hypothèse détenant de la neuroplasticité serait qu'il n'y aurait pas plus de détermination génétique que de détermination environnementale ou psychique. Il y aurait au contraire deux déterminismes dont l'articulation doit être pensée à travers le phénomène de plasticité. En bref, l'homme pourrait être considéré comme biologiquement déterminé pour être libre, vous vous souvenez, Alain Prochiantz, contrairement à la souris nude, que l'espoir soit permis. Lorsqu'un trauma survient, le sentiment de dévastation peut être tel qu'il dépasse la possibilité même d'y être comme sujet. Restaurer l'autre en tant que sujet en allant vers sera indiscutablement l'une de nos missions. Qui entend parler du trauma s'attend à voir évoqué le concept de résilience. Voilà, je l'ai évoqué. De même, il s'attend à un détour par l'empathie. Voilà, je me suis détournée. Consoler, vouloir le faire, passe par la revendication pleinement assumée d'une posture altruiste. Celle qui recrée la fiabilité d'un lien. Celle qui admet la proximité sans intrusion et sans jugement. Celle qui réintroduit l'espoir mais admet la désespérance. Celle qui affronte la possibilité de la perte radicale. Celle qui admet le manque. Celle qui n'admet pas la résignation mais prône la patience. Celle qui admet que l'on soit chaviré. Celle qui admet que le corps soit le théâtre du jeu. Celle qui va chercher l'autre au fond de son exil. On parle avec des gens avec lesquels on ne parlait pas pour que des liens nouveaux se recréent. On recrée des sensations primitives pour que renaisse le désir. Et on le fait avec douceur, encore une fois, merci Anne, et avec mansuétude, la bienveillance, c'est pour les séminaires de managers. Manso, comme le bœuf blanc qui vient chercher aux arènes, le toro bravo qui ne peut plus se battre. Et voilà que s'achève la balade. Et qu'il m'est donné à exprimer devant vous un vœu pour ce congrès. Je reprendrai donc Sainte-Beuve, écrivant à Alfred de Vigny à l'issue de la première de sa pièce Chatterton. Croyez en tout mon désir et à mon espoir d'un beau succès qui vous est bien dû. Madame la Présidente, chère Gisèle, Monsieur le Président, cher Marc, chers collègues, chers amis, je vous souhaite un merveilleux congrès et vous remercie de votre patience et de votre attention.